I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Je lui disais, mais oh là là, c'est ringue le truc. Elle me dit, non mais attends, fais ce que tu sais faire. Fais ce que toi tu sais faire. Que tu le fais bien mieux que qui que ce soit d'autre. Essaye pas de faire comme la mouvance du moment, comme le truc. Mais est-ce que j'aime ce que moi je sais faire? Je suis même pas sûre d'aimer mon propre truc.
Ça, c'est une question, tu vois.
Wow. Vivant comme Jaja, je peux tartiner la vie comme si tout est jojo. Wow. Le chemin fut long, mais je vois que j'arrive à l'heure. Je me suis pris quelques projos. Ouais, les trucs les plus beaux, je les ai trouvés paumés. Je monte à l'étage après trop d'étapes où la vie m'était d'accord sur comment être premier ou comment être sage. Je voulais porter un toast tout en traversant l'ennui.
J'en fais ma tartine de vie.
J'ai vécu l'espoir, donc je l'ai croqué.
J'en fais ma tartine de vie.
J'en fais ma tartine de vie.
Les amis, comment ça va?
Bah, ça va et toi?
Très très bien.
Ça va super, merci.
Je suis très content de cette table.
C'est une belle table.
Ouais.
De fou.
Ah ouais.
Et surtout, moi, ça faisait depuis mai dernier que j'avais pas tourné dans ce studio. Donc là, ça y est, c'est l'émission qui réannonce le retour des podcasts. Donc ça me fait vraiment plaisir.
Trop bien.
Bah, on est honoré d'être là. Hein.
Ouais.
Vous l'avez vu, c'est pas du tout le générique normal. C'est un générique qui a été fait par JER, qui est un petit artiste canet que j'embrasse et je crois beaucoup en lui. Donc je vous invite dans la description à aller checker son Insta, etc. Et donc voilà, tous les épisodes qui vont être supportés par Spotify, j'avais envie de mettre en avant à chaque fois des artistes. Donc il y a des artistes qui sont très connus, des artistes qui sont pas connus, etc. Mais du coup, le générique sera pimpé à chaque fois.
Très bien. J'en
mets. Donc c'est lui qui a fait ce générique.
C'est lui qui l'a fait.
Ok, très bien.
Ouais. Qui l'a fait, la prod, c'est Matou, qui est déjà venu, que tu connais très bien.
C'est qui ce Je connais pas Matou.
Qui est déjà venu, donc qui est ton DJ, et du coup qui est déjà venu.
Ah, il a une barbe, non?
Ouais, exactement.
Ah, sacré barbe.
Exactement.
Sacré
barbe. Il est venu dans Tartine de vie. On a parlé de sa barbe d'ailleurs, évidemment, parce que
évidemment.
C'est un vrai sujet.
C'est un sujet.
Les amis, je suis très content que vous soyez là. Vraiment, c'est. Dans le planning, on est pile dans le truc parce que déjà c'est ouf parce que toutes les trois vous avez sorti un album cette année.
Mmh.
Donc vous êtes au cœur de l'actu finalement.
Let's go.
Toi tu fais ta release ce soir, vous partez en promo, concert.
Tu fais ta release ce soir?
Ouais. D'ailleurs, vous êtes tous invités hein,
okay,
si vous voulez venir.
je viens.
Je fais ma release ce soir, 2 semaines après que l'album soit sorti. Mais je suis très contente, j'ai hâte.
Oui, c'est un grand jour, quoi. Et c'est où? Tu fais ça où?
Je fais ça dans les locaux d'Universal Music.
Ok, très bien.
Pour être un peu original.
Dans le concept, du coup, je pose des questions à mes abonnés. Et donc, voilà, je vous les soumets, qui sont des
avec
questions
plaisir.
Qui ne sont pas forcément liées à la musique, d'ailleurs. Les questions, elles sont un peu plus deep que d'habitude.
Ah.
Et souvent, je m'en rends
compte.
C'est
la rentrée.
Ah bah,
c'est
ça,
non,
c'est
mais
la rentrée.
L'époque, non, mais, hein, l'époque est
et,
deep. Hein.
Alors, l'époque, et je sens que moi, j'ai semé des trucs un peu dans mes dernières vidéos où je commence à montrer ouais. moins le positif, tu sais, à me dire, mais je pense que c'était des questions que vous avez aussi, des fois, de dire, moi, j'avais l'impression ouais. d'avoir l'image du gars qui toutes les semaines, devait redonner le sourire aux gens et tout. Et j'étais en mode, mais en fait, des fois, je vais pas bien et peut-être qu'il faut le dire aussi. Et donc, la première question, c'est ma préférée, c'est pourquoi ? Il y a même pas de point d'interrogation. Et en fait, au début, je me suis dit, mais incroyable, c'est vraiment de la merde. Et après, j'ai fait, pourquoi ? Et donc, cette question, je la trouve hyper intéressante parce que pour moi, c'est l'unique question de la vie. Et j'aimerais savoir pourquoi vous êtes lancé dans la musique.
Mon père faisait de la musique, j'ai commencé le violon, j'avais 6 ans, j'étais au conservatoire, à l'école de musique, etc. Je savais que je voulais pas être prof, je savais potentiellement que je voulais peut-être pas finir dans un orchestre ou que si ça finissait comme ça, c'est que j'avais pas trop fait l'effort de me chercher. Mmh. Dès le lycée, j'étais en horaire aménagé, j'avais lycée le matin, j'avais musique l'après-midi et je crois que depuis toute petite, je savais que j'allais finir dans la musique. Je me disais peut-être que je peux faire de la musicothérapie ou peut-être que essayer d'en créer ou vu que je faisais du violon, bah jouer à droite à gauche comme ça, mais
t'écrivais déjà?
Non, j'ai commencé à écrire à l'âge de 17 ans. Avant, je voulais chanter en anglais, après okay. j'ai essayé d'écrire en anglais, puis je me suis rappelé que j'étais pas forte en anglais.
Je sais pas anglais.
Et du coup, non, je me suis mise à écrire sur le tard. Mais par contre, vraiment, j'étais juste en mode, c'est la seule chose que je sais faire, que j'aime faire et que je veux faire. Il n'y a pas d'autres possibilités pour moi, en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai lié mes études à la musique, parce que je suis devenue tellement naze à l'école que la seule chose qui pouvait peut-être me sauver, c'était de lier la musique à ça. Okay. Alors après, j'étais quand même naze en musique aussi. Enfin, du côté, tout ce qui était théorique, harmonie, solfège.
C'était quoi tes études, pardon ?
Alors, c'était, j'étais en littéraire, horaire aménagé.
Genre donc, licence, c'est ça ?
Non, non, au lycée.
Ah non, au lycée, d'accord, je me demandais si t'avais fait après le bac.
Non, j'avais fait bac littéraire, option musique. Okay. Et après le bac, je suis allée dans une école privée de musique. Après, j'ai dit, bon, bah... Non. Et du coup, après, je suis retournée au conservatoire, mais cette fois-ci en chant jazz. Bah, de nouveau, en fait, c'était juste un prétexte de l'académie pour dire à mes parents, bah, je fais des études et c'est super, je vais faire de la musique dans ma vie et je passe par l'académie et vous payez pas un appartement dans le vent. Et en fait, vu que j'avais des mauvais résultats, bah, j'ai fini par payer l'appartement moi-même. Okay. Mais c'était un prétexte en attendant de me trouver, quoi.
Oui, c'est ça, parce que parfois, on met du temps aussi. Enfin, parfois, tu sais que tu veux faire de la musique, mais tu mets un peu de temps à trouver ton endroit, celui qui te ressemble, et il y a cette espèce de sas un peu, enfin en ce qui me concerne ça a pris énormément de temps. C'est très rare d'être une Billie Eilish et de trouver son endroit musical aussi jeune, aussi vite. Parfois il faut explorer, tu vois, tu parlais de jazz, moi j'en ai fait aussi, passer par plein de chemins différents pour arriver à se dire ça c'est moi. Ça, c'est mon identité musicale, ça, c'est mon truc à moi qui me ressemble. Et se ressembler, paradoxalement, ça peut prendre un certain temps, en fait.
Ça, c'est fou, parce que moi, j'ai l'impression que t'es là depuis hyper longtemps. Et en fait, t'as sorti que deux albums. et surtout, ton premier album, c'était après 30 ans.
Tout à fait, je vais avoir 39 ans là, donc mon premier album, je l'ai sorti après mes 30 ans. Ouais, moi j'ai eu toute une vie avant, j'ai fait du documentaire, j'ai travaillé pour la télé, mais j'ai fait de la zik depuis que je suis enfant, j'ai aussi des parents musiciens, tu vois, et j'ai composé depuis l'adolescence, depuis que je me suis un peu émancipée de ma famille et tout ça, mais je sais que toutes les expérimentations musicales que j'ai fait avant, si je te fais écouter les trucs que je fais à 22 ans, c'est méconnaissable.
Ouais. Okay. Mais est-ce que dès le début tu savais, parce qu'en fait autant il y a cette période où il faut explorer, savoir qui on est et peut-être qui on veut devenir, ou du moins ce qui nous anime, mais dès le début tu savais que c'était chanteuse que tu voulais faire? Parce que tu vois, quand je parle de la musique, moi je me disais je vais faire de la musique, mais je me disais est-ce que je vais faire du violon, dans quel cadre en fait, et puis même en vrai on connaît pas les métiers de la musique parce qu'on nous enseigne pas.
Non, c'est vrai.
Enfin moi j'ai découvert que par exemple il y avait énormément de professions autour de la musique en tournant, en découvrant sur les concerts les métiers qu'il y a autour d'une tournée, d'un concert. Et donc toi, justement, le fait que t'aies bossé dans des choses différentes avant, est-ce que quand même au fond de toi t'étais en mode j'attends juste le bon moment avant d'arriver en Juliette Armanet et...
Non, je crois pas. En fait, je sais que moi, ce que je savais faire, vu que moi, j'ai refusé d'apprendre à lire la musique, ce qui est une énorme connerie, et je sais rien jouer d'autre que du piano. Donc, le seul truc, le seul...
Moi, ça me plairait de savoir jouer du piano, mais...
Non, mais ce que je veux dire, c'est que le seul moyen d'expression, c'était de se mettre à un piano et de chanter, et d'écrire, et d'essayer mes propres trucs. Après, chanteuse et tout ça, je pense que ça a mis un vrai moment avant de se formuler que c'était possible.
Oui, que toi, tu pouvais être sur le devant de la scène.
Ouais,
tu savais que t'aimais composer, que t'étais animée par ça. Mais
ouais.
Ouais,
je sais pas.
Et c'est venu vers quel âge, du coup?
En fait, quand je faisais mes documentaires, je faisais quand même des petits concerts. J'ai invité les gens. Je faisais des tout petits concerts dans les petits bars. Puis je partais dans tous mes tournages. J'emmenais un clavier dans les voitures. Donc je composais. Donc je sais pas, je pense que c'était vraiment en moi, quoi. C'est une phrase de mon père qui dit tout le temps... il faut consentir à soi-même, et je trouve que c'est une belle phrase de finalement accepter qui tu es. C'est peut-être là où tu vas trouver ta plus grande force, de dire bah voilà, moi j'avais peur d'être, que ce soit un peu ringard le piano voix, j'avais peur qu'il y ait un truc un peu trop old school, et en fait c'était ça qui était le truc le plus sincère de mon projet, et j'ai mis du temps à l'accepter, à me dire voilà, fais ce que tu sais faire, et ça a mis du temps. Mais tu vois, à 30 ans, quand je me suis vraiment lancée, que j'ai arrêté mon premier métier, j'étais pas du tout sûre de moi, quoi. Ouais, tu vois, je vois tout le chemin que ça a pris. Il y a rencontrer un public, mais il y a se rencontrer soi sur scène, les premiers pas, tout ça, c'est très sensible, quoi, tu vois.
Ouais, c'est une grosse prise de risque aussi d'être installé dans un métier, dans une vie, et de se dire, en fait, je me lance sur le devant de la scène, let's go, avec mon piano, ça va être trop bien.
Ouais, non, c'est... Je sais pas, toi, c'est venu comment, tout ça, par exemple?
Moi, j'ai l'impression d'être vraiment un bébé de la musique, parce que j'ai pas du tout eu ce rêve d'être chanteuse ou de... de vivre de ma musique. Enfin, c'est arrivé très tard, donc j'ai l'impression seulement de, comme tu dis, d'être en train de me découvrir, de chercher, et qu'en fait ma musique se nourrisse de tout, de tout ce que je suis, de tout ce que j'ai fait auparavant, sans forcément toucher à la musique. Enfin bon, c'est un peu bizarre.
Mais c'est parce que toi, t'as plein de profils aussi, ouais. tu fais du cinéma.
En tout cas, moi, je voulais être sur scène. Ça, c'était mon rêve, c'est vrai.
Et en fait, la partie cirque que tu ramènes complètement en live aujourd'hui,
oui, c'est force. C'est vrai. Après, c'est vrai, j'ai fait de la musique au conservatoire. Enfin, j'ai commencé la flûte à 7 ans. J'ai fait vraiment 10 ans de musique. Ça, mais c'était au sein d'une appétence artistique plus globale,
ouais, quoi, parce que je faisais de la danse, du théâtre, ouais.
c'était passionnant. Enfin, je me rends compte depuis que j'ai 8 ans, je voulais monter sur scène, mais je voulais monter sur scène parce que je voulais être en connexion avec les gens et peut-être aussi à 8-9 ans être applaudi et vu en fait, peut-être, et me sentir exister. Et puis après ça change aussi ton regard sur ça, mais aussi partager ma vision poétique du monde, enfin comment dire, ça fait un peu, mais en vrai c'est vrai, je pourrais pas vivre autrement qu'en faisant tout ça, en cherchant et en arrivant à le concrétiser, quel que soit le médium utilisé en fait, parce qu'effectivement je joue dans des films, je fais maintenant de la musique, je danse, je fais du cirque, qu'importe, pour moi c'est vraiment la même chose, vraiment, simplement c'est dit dans différents langages, quoi, tu vois. Ouais.
La deuxième question, c'est une question que j'adore, alors je suis pas encore sûr de la syntaxe, mais quelle est la chose qu'on vous a dite impossible que vous avez pourtant fait? Te. J'ai vu dans ton regard.
Te. Ouais.
J'ai annoncé la syntaxe aussi.
Alors écoutez-moi, Ben. Alors, Belek, te.
Il y a des choses qu'on vous a dit, c'est impossible. Et après, vous faites cette chose-là.
Franchement, de base, être artiste, quoi, en vivre, réaliser son rêve, le concrétiser. Est-ce que ça a été vraiment verbalisé, tu vois, frontalement comme ça, en mode c'est impossible, mais quand même. Moi, je viens pas d'une famille d'artistes.
Qu'est-ce qu'ils faisaient, tes parents ?
Moi, ils sont à la retraite, mais ils étaient dans l'éducation nationale.
Ok.
Mon père, il est documentaliste, donc bibliothécaire au collège, au lycée. Soyez gentils avec les documentalistes. Hein ? Et ma mère, elle a été prof et tout au début, mais maintenant, elle est chef d'établissement. Collège, okay. Lycée. Post-bac, tout ça, quoi.
Ouais, donc forcément, ils t'encourageaient à faire des études.
Après, j'ai eu de la chance parce que j'avoue, j'étais bonne à l'école. En tout cas, le système scolaire m'a convenu parce que c'est pas juste être bon ou mauvais. Je pense qu'il y a les personnes très intelligentes ont du mal d'ailleurs à l'école, mais j'avais des facilités et donc j'étais très bonne élève. Et du coup, je pense que quand j'ai décidé après le bac, finalement, de pas tenter Polytech, mais d'aller faire du cirque. Ils se sont dit, je pense que c'est un choix réfléchi, parce que de par ma personnalité et du fait que j'étais déjà, j'ai eu cette chance-là d'avoir ce profil où ça roulait en fait. Donc quand je fais un truc, je le fais à fond. J'étais très assidue, très.
Et on t'a dit que c'était impossible. On t'a dit, va pas dans cette voie-là parce que t'es bonne à l'école. Donc pourquoi tu t'emmerdes à essayer de faire un truc sans avenir, quoi.
La peur de l'insécurité aussi, de ces vies qu'on connaît pas en fait. Tout ça, c'est toujours un peu l'ignorance en fait de quelque chose dont t'as peur parce que tu le connais pas.
Ouais. Oh, c'est beau ça va finir sur un statut Facebook, ça.
Non,
c'est vrai.
Je vais être dans les trucs impossibles. Est-ce qu'on t'a dit que c'était impossible d'aller sur scène enceinte?
Oui.
On m'a dit que t'étais jusqu'à 8 mois et demi sur scène encore.
Ouais, on me l'a dit et on me l'a même dit plusieurs fois quand j'étais sur scène, je ne dirais pas qui. Donc je suis tombée enceinte en plein milieu de ma tournée, qui était une chose totalement qui est tombée comme ça. Et puis voilà, je me suis dit, bah vas-y, je vais tout faire en même temps. Et c'était à la fois super, à la fois difficile, normal. C'était surtout les déplacements qui étaient compliqués et tout. Et puis effectivement, il y a un moment donné où, bon, ton corps change. clairement, c'est pas vraiment très adapté à une vie de tournée où tu joues tout le temps, où tu passes ta vie dans les transports.
On parlait des bus et tout à l'heure. Ouais,
voilà, les ondes aussi.
Et c'est ça qui me questionne, moi, c'est au niveau du son, les dB finalement.
Ouais.
Est-ce qu'il y a un truc où le médecin t'a dit, ouais, là,
tu mettais un casque sur le.
Ouais, c'est ça. Non, mais avant de monter sur scène, je disais, vas-y, on s'accroche, on y va. C'est parti.
Ou en fait, finalement.
Mais moi, je sentais que ça allait, quoi. Je sentais que ça allait. Mais oui, clairement, j'ai eu 2-3 fois, je suis sortie de scène, les gens qui m'ont dit, mais ça va pas de faire ça enceinte et tout.
Et c'était. Bien,
inapproprié. Il y a plein de femmes sportives qui font des trucs, qui font leurs activités jusqu'au bout. En fait, bon, voilà. Mais j'avoue, c'était un sacré challenge.
Et il fallait adapter les tenues chaque mois.
Ouais, exactement. Ça, mais en plus, c'est vrai. Ouais. Et puis, en plus, au début, j'avais pas très envie que ça se sache pour plein de raisons. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Et tout ça. Donc, j'ai mis un peu du temps à le conscientiser, à le dire. Puis, comme il y avait deux niveaux très différents de ma vie, ma tournée s'agrandissait. Mon corps aussi, il y avait une espèce de truc qui devenait comme ça
gigantesque.
Et puis, d'un seul coup, ça s'est arrêté. Et vraiment, j'étais vraiment en studio la veille d'accoucher.
Petit nouveau titre. Tu t'inspires.
Paf, en chanson en japonais.
C'est le gosse qui arrive qui a déjà tout un album dans sa tête.
Ouais, ça y est. Et puis, mais clairement, ouais, on m'a dit plusieurs fois que c'était impossible. Mais je crois que.
Tu t'es écouté, c'est bien.
Voilà. Exactement.
Ouais, si ton corps il t'encourageait à le faire, ou du moins qu'il te stoppait pas, il faut être à son écoute.
C'est voilà, et c'est ça. Et puis je sentais que c'était faisable. Et puis j'étais bien entourée aussi. Ouais. Parce que
et
c'est
tu te sentais bien sur scène.
Ouais, je me sentais bien. Mais clairement, quand je revois vraiment les images et les photos, je me dis.
C'était émouvant.
C'est quand même spécial, quoi. C'était quand même.
Est-ce que t'as l'impression que ça t'a fait un peu oublier la grossesse, du coup? Genre, t'étais tellement focus sur plein de trucs.
Ça m'a pas fait du tout oublier la grossesse, mais je me suis dit, ok, ma vie, elle sera toujours comme ça. Okay. Tout arrivera toujours en même temps. Il y a un truc. Et en même temps, quand t'es une femme et que t'as ce désir-là d'avoir un enfant, parce que tu vois, moi, c'était mon désir, quoi. Il n'y a jamais le moment, en fait. Okay. C'est impossible. Il n'y a pas le moment où tu vas te dire, alors typiquement, je vais pouvoir. Nos corps, ils sont pas, on ne peut pas décider tout le temps pour eux. Et moi, on m'avait dit, c'est très intime ce que je raconte, mais on m'avait dit que j'aurais jamais d'enfant. On m'avait dit que ça ne marcherait pas. Et du coup, j'ai vécu avec cette peur-là, avec cette hantise terrible pendant des années. Et quand c'est arrivé, hors de question de me dire que c'était j'allais devoir faire des choix. Ouais. Donc je me suis plongée en me disant, vas-y, ma vie, elle est comme ça. Ma tournée, elle marche bien. J'y vais avoir un bébé. En vrai, c'est chambé.
Symboliquement, il y a un truc stylé quand même.
Et ça l'a cristallisé dans un moment très, très joyeux.
Ouais,
ta
ouais,
vie
c'était
aussi
vraiment très, très fort, quoi. Mais en plus, je chantais une chanson qui s'appelait Manque d'amour. Et je me souviens très bien, une fois, je chantais, il y a comme un manque d'amour. Et il y a mon bouton qui a sauté. Et j'ai fait, ah non, il n'y a pas de manque d'amour là. Il y a de l'amour là. Mais
trop d'émotion.
Mais ouais, j'ai tout vécu en même temps. Et après, quand le bébé est arrivé, c'est vrai que d'un seul coup, le silence, et puis d'un seul coup, toute la vie qui tournait autour de toi, de tes désirs, de ta tournée, de tout, tout le focus, il va ailleurs, quoi. Mmh. Et ça, c'est un énorme bouleversement.
Ouais.
Et voilà. Mais j'ai pas eu que des moments faciles. Et en même temps, j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, ce désir d'enfant avec cette vie-là, quoi qu'il arrive, il est... Tu vois, il faut jongler. Il faut accepter. Il faut pas vivre dans la culpabilité. Faut se dire, j'embrasse tout en même temps. Toutes les identités que j'ai envie d'être, je peux les vivre ensemble, quoi, sans culpabiliser, sans me dire que j'aurais dû, je suis nulle pour tel ou tel truc. Vas-y, on vit les choses.
Ouais, c'est surtout par rapport aux a priori qu'on peut avoir vis-à-vis de ses carrières, où on se dit, parfois on a l'impression, enfin, je sais pas en ce qui vous concerne, mais qu'il y a peut-être une deadline de pouvoir faire les choses, une date de péremption en vrai, pour
bien
être
sûr.
Un peu plus juste, et de se dire, mais du coup, est-ce que je dois pas accomplir mes projets avant cette date de péremption? Et en fait, si j'ai un enfant, en fait, est-ce que ça va pas amputer tous les projets que j'ai envie de faire à un certain moment?
Tu sens cette pression-là, toi? De dire, là, peut-être que je me dépêche avant le...
Alors non, parce que je crois que je dois encore un peu grandir. Hein. Je suis encore moi-même une enfant, donc même si j'ai 28 ans, j'ai encore du taf. Mais ouais, je le ressens. Et en même temps, je suis trop contente qu'il y ait eu des exemples, notamment chez les artistes françaises, d'artistes qui ont vécu leur vie de jeune femme, leur vie d'artiste, leur succès, la période de creux, et puis les moments où en fait elles se focalisent sur leur vie personnelle, leur vie de maman, et puis qu'elles reviennent des années plus tard et qu'en fait le succès est toujours au rendez-vous, qu'elles sont toujours présentes. Enfin, je pense notamment je sais pas à Mel Bent, Vita, enfin tu vois, c'est des je les cite elles comme ça, mais c'est des artistes qui vraiment ont prouvé que il y avait pas trop de date de péremption. En fait, j'ai l'impression que ça dépend vraiment juste de toi, comment tu décides de prendre le temps pour les choses,
et puis, la confiance dans ton public aussi,
et en soi aussi c'est...
Non, vas-y.
Non, justement, j'étais à ton écoute parce que toi aussi, vu que t'as vécu ça, mais tout en même temps, qu'il n'y a pas eu la période de creux, tout est arrivé en même temps, en fait.
Non, mais puis je crois aussi que l'industrie musicale te fout tout le temps la pression de c'est maintenant, il faut sortir ton disque maintenant, il faut faire
maintenant.
Ça tout de suite. C'est toujours maintenant.
C'est toujours maintenant.
Et en fait, oui, on est une époque un peu volatile, ça c'est sûr, c'est vrai. Et en même temps, je pense que quand il y a quand les gens ils sont là et bah ils sont là quoi. Et il y a une, moi j'ai vraiment, on m'a mis une pression de ouf pour le deuxième disque, il faut le sortir, il faut machin, et c'est nécessaire aussi parce que je suis quelqu'un qui a du mal à finir les albums. Je pense que c'est aussi parfois une dialectique pour aider à finir, mais faut faire confiance dans son public quoi, je veux dire, et confiance dans son travail. Il y a, on n'est pas que dans des courants de mode où il faut sortir ça maintenant pour que ça marche. Il y a une confiance de fond dans les choses qui fait que faut sentir le tempo, c'est le tien, ça doit toujours rester le tien. Ça c'est primordial de sentir quel est le moment pour toi. Enfin, je sais pas si ça résonne.
Ça résonne. Hein,
mais bon,
ça résonne fort.
Ça c'est drôle, c'est les problématiques qu'on a aussi sur YouTube, tu vois.
De dire,
moi je sors une vidéo, je suis déjà en mode attends, la semaine prochaine, du coup, qu'est-ce que c'est l'émission? Comment on m'oublie pas, etc. Et des fois, on a tendance à se faire un petit peu engloutir par le truc, et donc faire de la qualité moindre, donc être moins fier de ce qu'on sort. Donc du coup, le public le voit et se dit ah, oh, c'est moins ouf. Et du coup, en fait, tu crées ta propre peur, en fait, quoi. Elle devient réalité, quoi.
C'est vrai.
Chi, toi, t'as déjà fait un truc où on t'a dit ça, c'est impossible, et après, t'es arrivé en mode.
Yeah, je crois que je l'ai fait en fait.
Oups. Je me sens hyper privilégiée en tout cas en ce qui concerne la musique, parce que vu que mon père faisait de la musique, alors lui
il faisait quoi comme musique lui?
Il était pianiste, il faisait beaucoup de jazz, de blues, etc. Mais il ne vivait pas de la musique. Mes deux parents, ils étaient éducateurs spé et assistants sociaux. Et en vrai, il y avait plus cette dimension de j'ai été encouragée à faire de l'art. Donc dès petite, on m'a dit tu peux faire de la musique, tu peux faire du sport. Enfin, donc on m'a vraiment encouragée à avoir des passions, des activités. En revanche, il y avait quand même un cadre qui était quand même strict, qui était faut aller un peu au bout de ses études, et puis après le bac, faut quand même faire des études pour cette sécurité dont tu parlais tout à l'heure. Je pense que notamment nos parents, enfin dans une génération un peu large, ont quand même été conditionnés à se dire qu'une vie, elle était plus ou moins réussie s'il y avait un travail, un salaire qui tombait tous les mois, une stabilité, etc. Donc forcément, moi, ma mère, enfin, parce que j'ai perdu mon père assez jeune, et du coup, je me suis surtout fiée à la parole de ma mère et à son éducation, qui elle m'encourageait à faire de la musique, forcément un peu plus dans un cadre académique quand même. Mais aussi à se dire, c'est important que tu aies des diplômes et que tu puisses avoir une stabilité dans ta vie.
Et rebondir, si jamais.
Ça pour aussi, rebondir, si jamais. Ouais. Exactement. Et sauf que j'ai joué la carte, j'ai fait la petite filoute. et j'ai joué de ça, en fait. J'ai fait genre, ouais, je vais au conservatoire, académie, je vais passer mon DEM, tout ça. Alors que pas du tout, en parallèle, juste je faisais du rap et je faisais ça pour rigoler. Et vraiment, moi-même, je ne pensais pas que ça m'amènerait à une stabilité. Et puis, je ne m'estime pas du tout stable forcément non plus, parce que, comme tu disais, il faut avoir confiance en soi, en son public, être à son rythme. Mais on est quand même dans des métiers où si on n'a pas cette force de renouvellement, de détermination à en tout cas aller plus loin dans les projets que juste sortir un album, et justement aller le défendre sur scène, et puis peut-être réfléchir à d'autres concepts. Enfin, je sais pas, en fait, on a une vie hyper chargée qui englobe plein de choses. Toi, tu vois, tu parlais du cirque, de la danse, ça peut être les films. Enfin, on a plein de possibilités, mais il faut savoir les saisir. Et donc, tout peut continuer comme tout peut s'arrêter du jour au lendemain.
Ouais. Ce que j'allais dire, je sais pas si la stabilité, elle existe. Moi, je suis dans plein de remises en question en ce moment-là. Quand je dis en ce moment-là, c'est vraiment... En ce moment,
là,
je me dis voilà, on est plus d'un demi-million, je fais des millions de vues par mois et tout, et genre je me suis jamais senti aussi instable de pouvoir perdre tout du jour au lendemain. Et alors bon, je sais que le pire ennemi dans ces cas-là, c'est juste moi, tu vois, parce que c'est moi-même qui me morfond avec ces trucs-là, et je dis ah mais attends, est-ce que je prends autant de plaisir déjà, parce que pour moi le principal, c'est de prendre du plaisir dans ce que tu fais. Donc il y a des trucs où je me dis ah peut-être ça, je prends moins de plaisir, ou ça j'ai moins la force aussi d'eux, etc. Et où je me dis mais en fait c'est sûr que tout peut s'arrêter. Je sais pas s'il y a un truc de ah ok maintenant je suis à tant d'années de carrière, donc c'est ok, tu vois. J'ai l'impression qu'au contraire, tu sais, il y a un mini truc de ok, là j'ai 30 ans, est-ce que sur YouTube je vais pas devenir has-been? Est-ce que mon format, les gens vont dire ah tu te rappelles à l'époque Ben Never, il y avait une table et tout, alors que quand j'ai commencé, tu vois, c'était ouf, tu vois, personne ne le faisait et tout. Et comment tu te renouvelles dans ce truc là quoi?
Donc mais la stabilité, c'est ça la force, enfin je crois que c'est ça la force de nos métiers aussi, c'est qu'en fait on a le choix. Enfin, en tout cas, on a le choix de pouvoir pousser à fond notre créativité pour toujours se renouveler. Après, soit on le fait bien, soit on peut se planter. Ouais. Mais si on se plante, en fait, c'est un trop bon argument aussi pour rebondir et faire les choses différemment.
Mais je crois que, en tout cas, en termes d'impossibilité, etc., moi, je me suis jamais confrontée à un truc de c'est impossible. Enfin, peut-être on m'a déjà dit, ouais, t'es une meuf dans le rap, machin, mais enfin, à part ça, moi, j'étais juste en mode, bah, justement, il n'y a pas de meuf, donc c'est tellement impossible. Ouais. Donc,
Merci, il y a combien de places à prendre
Exactement. J'étais en mode, ah, mais
question
en fait,
suivante.
C'est ça qui va marcher. C'est parce qu'il n'y a personne que je vais y arriver, tu vois. Ouais. Mais après, j'avoue que sur la stabilité, je suis un peu dans les mêmes problématiques que toi, et je pense que c'est plutôt lié à l'anxiété et aux angoisses plus que.
Ouais, moi, c'est un jour sur
la réalité de nos métiers, peut-être. Non, pardon, j'avais le terme.
Mais non, t'excuses pas, je t'ai coupé. Non, mais c'est moi, j'ai l'impression qu'un jour sur deux, enfin, je me demande vraiment si la recherche d'équilibre, mais qu'est-ce que ça veut dire, ou plutôt comment on l'a conditionné chez moi par rapport à ce que devait être un peu un mode de fonctionnement normal, avec des paramètres de vie, des choses un peu établies, d'emploi du temps, etc. Et je me demande souvent, l'équilibre, est-ce que c'est une quête saine ou un leurre, quoi.
Oui, parce qu'on en parle dans nos métiers artistiques, mais genre j'ai plein de potes qui sont fonctionnaires et où on a des discussions où on se comprend parfaitement sur ces trucs-là, où en fait tu te dis...
Mais c'est la nature humaine, de toute
C'est de la mouvance, en fait. La vie est une mouvance complète.
Mais c'est vrai qu'on a... Pardon.
Non, vas-y.
On a des rythmes pas évidents et des fois... J'aimerais être plus équilibrée, mais en fait, en
mais
le disant.
Mais c'est ta folie qui fait ta création aussi.
Mais en le disant, je sais même pas ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça voudrait dire.
C'est ton déséquilibre qui fait qu'il y a peut-être un endroit qui laisse de la place pour créer quelque chose. Et puis, foncièrement, même au-delà de la question de la création, j'ai l'impression que l'instabilité, c'est profondément dans la nature humaine.
Ça, j'accepte pas, mais oui. C'est ça que je veux.
Est-ce que toi, par exemple, qui a un enfant, t'as l'impression que ça redéfinit des besoins d'équilibre, peut-être liés à cette petite personne qui maintenant existe à tes côtés, ou alors il s'est adapté à ton déséquilibre équilibré?
Vaste question. Alors écoutez, c'est une très belle question. Je trouve que c'est une question profonde. Je me la pose souvent. Est-ce que comment trouver le juste endroit entre faire de la place pour cet enfant et comment en même temps lui s'inscrit dans ma vie. De toute manière, on avance ensemble. J'ai tendance à croire que quand même les grands amours comme ça, c'est à partir du moment où le cœur est grand ouvert et qu'on fait tout pour partager les plus belles choses ensemble, et puis pour transmettre aussi, transmettre l'amour de la musique, parce que moi c'est quand même un truc, tu vois, genre toi tu parlais de ton papa qui est musicien, moi je sais pas, enfin le fait qu'on ait pu recevoir cet amour-là de la musique et pouvoir en faire quelque chose qui te ressemble, je trouve que c'est quand même un truc trop beau dans la vie.
C'est hyper enrichissant, mais c'est de l'ordre de la transmission, de l'héritage. Et je disais, moi j'ai perdu mon père à 14 ans, mais j'ai jamais été plus proche de lui que depuis que j'ai réussi à faire quelque chose de ce don déjà dont j'ai hérité. Et en plus de cette envie de me dire, ce don, je dois en faire quelque chose, c'est une mission. Enfin, la mission pour moi, c'est en tout cas de l'optimiser à fond, de m'épanouir avec ça et de vraiment me sentir alignée avec ma musique et de vibrer quoi qu'il arrive. Et de se dire, ben, du coup, il est toujours avec moi tout le temps. Et ça, c'est trop génial parce que pour les fois où t'as peur du déséquilibre, tu dis bon, quoi qu'il arrive, en fait, je sais que je le fais pour les bonnes raisons. Et je sais que, tu vois, dans mon album, j'ai appelé un morceau Bonne Étoile. Mais ce morceau, c'est un peu le morceau le plus pur de mon album parce qu'il est vraiment à l'image de ce que représente la vie pour moi, finalement. C'est t'as des doutes, t'as des frustrations, parfois t'as des souvenirs, la nostalgie de se dire ah, mais la vie avant, et en fait, qu'est-ce que ça va être l'avenir. Moi, mon repère, c'est la musique et la bonne étoile qui est mon père, qui est avec moi et qui me dirige quoi qu'il arrive. Et en fait, depuis tout à l'heure, on parle d'équilibre, de déséquilibre, etc. Mais parce que tout ça, pour moi, c'est lié un peu au contrôle, en réalité. Et en fait, c'est fou parce qu'on a décidé de faire de la musique pour lâcher prise, peut-être, tu vois.
Oh my God.
Alors que finalement, est-ce qu'on n'est pas un peu control freak parfois? Enfin, moi, je me sens dans une dualité terrible. Ouais. À la hauteur du métissage peut-être, mais je sais pas.
Parce que la scène, c'est un endroit d'abandon quand même.
Complètement. Enfin,
là, c'est quand même le lieu où justement la question de l'impossible, elle n'existe plus. La question de l'équilibre, elle n'existe plus. Presque même, tu vas aller chercher les crêtes, tu vas aller chercher le danger, tu vas aller chercher le déséquilibre.
C'est clair. Mais c'est là où ça a le plus de sens du coup, tout ça, parce que comme tu dis, on n'a pas le choix en fait, on est là. Et
ouais,
c'est
puis
comme
c'est
ça.
Vivant en fait. Ça reste quand même un art un peu ancestral, très vivant. T'interagis avec les gens, ce qui te donne, comment tu partages les choses.
Je pense à un moment où moi je t'ai vu à l'Olympia Et je pense au moment où il y a un slow et où tu vas dans la fosse et tu danses un slow avec tous les gens. Et j'avoue que moi, ça, visuellement, ça m'a marqué. En dehors, évidemment, de cette robe disco incroyable, quand toutes les lumières vont sur toi. Je sais pas si c'est un spoil pour les gens ou pas, mais en tout cas, voilà. En tout cas, je l'ai posté sur Insta, donc tout le monde est content. Je sais pas s'il valait pas spoiler ou pas. J'ai une question, je pense que c'est la plus philosophique qui m'a été posée. Quel est votre fromage préféré ?
Roquefort.
Roquefort ?
Ah non, j'aime pas. Enfin, c'est trop fort, le Roquefort.
C'est le seul que j'arrive pas à...
C'est... Bah, c'est... Mais oui, j'ai l'impression... Parce que moi, je détestais, et petit à petit, je commence à un peu plus le tolérer.
Ça s'appelle la vieillesse. Tous les trucs qu'on n'aimait pas avant, et tu sais, on commence à dire...
Non, mais moi, tu vois... Les... Non, mais j'adore me faire étendre, comme ça.
Moi, tu vois, le vin, par exemple, le vin, j'étais en mode, ouais, ok, et plus ça va, plus je suis en mode... Ah oui, je sens là, ah bah ouais. La petite terre, le truc et tout, des trucs que je...
Moi, je... C'est un peu que la... Un bon comté.
Mais ouais, j'avoue, un bon,
tu vois,
ouais, ouais.
Un bon comté, je dirais un affinage,
du Roquefort, quand même. Pour le coup, c'est
18 mois, tu vois. Ouais. Un petit comté fruité.
Ouais, ouais.
Bah, le comté, c'est... Affinage 6 mois, pas plus.
Non, mais en fait, c'est le coup, on a basculé. Comté fruité sur un, sur un affinage de 18 mois.
Non, mais moi, j'ai un problème, c'est que...
Une pâte, une croûte...
semi-épaisse avec du répondant au toucher. Non mais non mais parce que
c'est
en fait
bizarre pourquoi tu nous poses cette question fromage. J'adore cette question.
Vous mangez des pâtes avec du fromage? Enfin, moi je peux pas manger des pâtes sans fromage. Gruyère. Et du coup je trouve que le comté a quand même
Le gruyère
tu vois, les mentales gruyère. Excusez-moi. Non, parce que j'étais jugée bêtement.
Parce que gruyère, on n'est pas aussi, il y a un truc qui se passe en France, c'est qu'on le gruyère qu'on mange nous, c'est pas du tout le gruyère des Suisses qui est très différent.
Juliette, mais entre un gruyère et un comté...
Ouais, mais
alors
un gruyère
mental caoutchouteux, alors que le gruyère suisse dans la moitié-moitié...
Avec le sel qui croit
que... Tu vois ce que je veux dire? On est d'accord.
Tu vois
Après, j'avoue, moi j'ai grandi au pied du Jura, très proche de la Haute-Savoie, à la frontière de la Suisse.
Ah là là, tu vas
donc en termes de fromage, vraiment...
Il y avait
je suis fromage.
Ouais, j'avoue.
Je suis fromage.
Moi, c'est Normandie, donc je suis à fond Livaro,
camembert. Les crus, moulés à la louche.
T'as pas bossé pour du camembert?
J'ai fait un reportage sur le camembert.
Industrie
du camembert sur.
Quand t'étais journaliste, rien à voir avec le projet Juliette Armanet.
Non, mais.
Tu peux retrouver du Clacos sur la tournée ou
combiné? Non, c'était sur la grande bataille entre les AOC et les petits producteurs.
Bien sûr.
Qui fait que maintenant, quand t'achètes un camembert, tu sais, en fait, l'AOC a... trop chiant, c'est trop long.
C'est long à contrôler.
En gros, maintenant, on ne fait plus trop la différence entre... Non, mais c'est vrai, entre le camembert président, qui est du lait pasteurisé et qui n'est pas moulé à la louche, avec le vrai camembert de Normandie, qui est au lait cru et moulé à la louche. Sauf que nous, les consommateurs, quand il y a écrit AOC, on se dit « Ah, bah, tiens, président, c'est comme un... » Alors qu'il n'y a qu'un seul camembert, un seul, c'est le lait cru moulé à la louche.
Mais comme toutes les appellations maintenant, en bio, on a l'impression que tout est dans le même panier.
Et toi, quel est ton fromage préféré?
Moi, j'avoue, c'est camembert Livaro.
Après, vous n'aimez pas Livaro? Moi, après, j'ai du mal à digérer le lait de vache, donc j'en mange peu.
J'en mange pas beaucoup.
Je suis plutôt dans le chèvre.
Et donc, du coup, moi, je suis plutôt
chèvre-brebis. Chèvre-brebis, je trouve que voilà, c'est un duo
qui se marie plutôt bien.
La biquette.
La biquette.
Donc, vraiment, le fromage est un sujet très sérieux entre nous, on peut se le dire.
Et ça se digère mieux, c'est vrai, le lait de.
Écoutez, moi, je suis content d'avoir parlé de la Normandie, donc ça, pour cet épisode, c'est fait. Il faut qu'on parle de la Normandie à chaque épisode, donc c'est bon.
T'as placé un artiste de Caen tout à l'heure.
C'est vrai? Ah, j'ai parlé de Orelsan encore ou...
Ah, il vient pas de Caen, le premier artiste qui a fait le générique? Pas du tout.
Ah, si, si, bien sûr, GER. Allez, checker sur Instagram, voilà. GER.
Donc, tu vois, là, c'est bon.
Non, c'est vrai. Ah, c'est vrai que j'avais déjà anticipé.
J'ai suivi.
Tout à l'heure, tu parlais d'échecs. Et il y a une question, c'est quel est votre dernier échec?
Il y a des concerts ratés, et alors que tout le monde a envie que ça marche. Toute la journée, on a pensé qu'à ça, on s'est préparé à ça, le public est venu, les gens ont pris leur disposition pour être là et tout, puis ça prend pas.
C'est un échec pour toi ou c'est un échec pour tout le monde?
C'est une équipe déjà. De toute façon, le spectacle tel qu'il est pensé, tel qu'il est joué, pour moi, c'est collectif, tu vois.
Et le public te dit que ça n'a pas marché? Ou eux, en fait, ils ont adoré, c'est toi tu te dis, ah, là, j'ai foiré, quoi.
Je sais pas. De toute façon, je me fie à mes sensations. Si jamais je me dis, ah, c'était pas ouf, je sais que, en tout cas, moi, j'ai pas pris tout le plaisir que je voulais.
Donc tu fais confiance à tes sensations?
Bien sûr. Ouais, j'ai tort.
Non, t'as raison, parce que c'est mon travail en ce moment aussi, tu vois, de me dire.
Je te sens dans une grande remise en question.
Là, il y a un nouveau cycle.
Moi, j'invite des gens, mais c'est pour ma thérapie personnelle.
Mais non, hein, c'est ça.
Non, c'est intéressant. Non, c'est intéressant parce que j'ai des vrais questionnements en ce moment où je fonctionne énormément à l'intuition, à l'instinct. Mm. C'est genre, moi, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'était l'inverse du rationnel. Et là, j'ai un mini truc où j'ai. Mais je pense que c'est psychologique. T'as l'impression de perdre le mojo, tu vois. De te dire, ah merde, j'ai perdu.
Mais non, mais peut-être que c'est le début d'une métamorphose. Parfois, tu sais, pour muer, il faut perdre un peu pied.
Après, j'avoue, moi je suis dans le même mood que toi, hein, Ben. Ouais, je suis
pas dans le même mood.
Non, mais je vois ce que tu veux dire. Pour rebondir là-dessus, ça m'effraie pas.
Ok.
En fait, je crois que je suis assez sereine pour la suite.
Parce que tu sais que ça va revenir ?
Alors, non.
Mais au moins, c'est réglé.
Je sais pas si ça va revenir. Par contre, je sais que je vais me donner les moyens pour faire en sorte que ça revienne.
Pour tenter.
Tu vois ce que je veux dire ?
Il faut chérir ses doutes. Hein. Il faut chérir ces moments de faiblesse. C'est souvent de là que naît quelque chose, en fait.
Bien sûr.
Il faut chérir le fait qu'il y ait de l'instabilité, qu'il y ait des zones d'inconfort, etc. Parce que c'est peut-être là, en ce moment, dans ton inconscient, que quelque chose de nouveau est en train de se fabriquer. Mmh. Et qu'en fait, ça te fait souffrir. Parce que ça fait toujours souffrir de créer quelque chose. Forcément, c'est qu'il y a un endroit où ça sort, quoi. Donc, faut chérir ces moments d'instabilité, même s'ils sont violents. Hein. Enfin, tu vois, ça peut être très dur. Jamais.
Mais en fait, moi, je les vois comme des cycles. C'est là où je te rejoins complètement. C'est que je vois, par exemple, le moment où j'arrive dans le milieu, plus ou moins. Enfin, bref, j'ai le vent en poupe au bout d'un moment sur Moon, sur pas mal de choses, sur des freestyles Skyrock, etc. Je commence à prendre la confiance un peu. Enfin,
léger, tu vois. Je suis en mode.
T'as raison.
Bon, sympa, c'est cool ce qui se passe. J'aime bien cette sensation.
Toute la journée, t'es entouré de gens qui te
mouffent. Qui me saucent,
Et puis, je suis pas, tu vois, merci, ça me fait plaisir. Mm. Je ne rejette pas, tu vois, j'accepte ce qui m'arrive, tu vois, gentiment. Pendant cette période-là, j'ai peut-être au bout d'un moment, pas oublié ce que c'était la vie, mais oublié que ça allait pas durer.
Ouais.
Alors qu'en vrai, c'est pas que ça dure jamais, mais un peu quand même. Tu vois, même si tu t'attelles à essayer de tout faire bien, que ça continue, que tout soit génial et tout, tu sais jamais ce que la vie te réserve. Mmh. Et parfois, c'est moins de vues, parfois c'est moins de ventes, parfois c'est un public qui va peut-être pas être réceptif à ce moment-là, ou toi qui n'as pas la bonne énergie pour transmettre au public ce jour-là. Parfois c'est la maladie, parfois c'est les... Enfin, tu vois, il arrive quelque chose à un de tes proches ou à toi. Enfin, en fait, tout peut arriver. Donc, c'est juste se dire, ces moments de down, ils sont un peu durs à encaisser, surtout à un moment où tu as eu l'impression que tu commençais à t'installer dans quelque chose de rassurant. Mais j'ai l'impression que c'est de là que repart un nouveau cycle qui fait que tu vas aller chercher. C'est pour ça que je te dis que, en ce qui me concerne, moi, ça me fait pas trop peur, parce que si tu n'utilises pas ces moments-là pour justement aller plus haut et aller plus loin que juste arrêter à « je suis amorphe et tétanisée de ce qui est en train de m'arriver », l'histoire, elle s'arrête bêtement, alors qu'en fait, il y a encore tout à écrire et que, en vrai, je crois qu'on est un peu au début du reste de notre
vie. Faut faire confiance, mais parfois c'est compliqué, hein, de faire confiance à ces périodes de creux, de doute et de sensation d'échec. Mais surtout, effectivement, quand tu en ressors,
Je t'en prie, non, vas-y.
Non, mais quand tu en ressors de ça et que tu vois, tout le lumineux à nouveau qui te remplit et le changement en fait qui a été opéré en toi, tu te dis ah mais d'accord, mais la vie fait tellement ce qu'il doit.
Ouais.
Moi je vois ça aussi, enfin on n'a pas le même parcours, mais j'ai sorti mon premier album en 2020 juste avant le Covid.
Ouais.
Du coup il n'a pas tourné, tout s'est arrêté alors que j'étais sur un élan dynamique,
prolifique,
plutôt sympathique. et du coup du jour au lendemain tu te réveilles, t'es en mode je n'existe plus. Merci à tous, à bientôt.
Comment tu l'as vécu cette période ? Comment t'as fait pour rebondir ? Parce que...
En tout cas, je l'ai vécu, tu vois. Tu disais d'embrasser aussi ces doutes-là. J'ai pas eu de choix que de le vivre et d'avancer. C'est assez violent, mais après, c'est comme tout le monde, à la hauteur de ce qui se passait dans le monde. Très vite, j'ai vraiment pris du recul sur ma situation qui me paraissait être très bien, on va être sur les réseaux, on va faire du virtuel, on va faire vivre ce premier album. Et puis, qui dit premier album dit première fois. En fait, j'ai pas de comparatif. Donc j'en sais rien. Et c'est comme ça. D'accord, ça doit être comme ça. Enfin, ça doit être comme ça. Je voyais bien que c'était différent, mais après, la violence, c'est juste de ne pas savoir où est ta place. Parce que finalement, j'étais à un endroit où j'en avais aucune. J'étais ni à la place d'une petite pépite qui débarque, ni à la place d'une artiste affirmée qu'on a applaudit et qui sort son deuxième album. Enfin, tu vois, et qu'on attend. En fait, j'étais là en mode... Personne ne m'attend.
Et si, on t'a si.
Non, mais oui, mais je, bien sûr, pardon, je caricature.
C'est drôle parce que tu
vis
vois,
la solitude.
La
quoi,
pression de personne t'attend. C'est drôle parce qu'après, quand on t'attend, t'as une pression pareille, mais qui est différente, tu vois, de dire, bon, bah maintenant qu'on m'attend quelque part, faut pas décevoir les gens, tu vois.
Moi, je sais pas. Bah, après, moi, j'ai pas connu ça, du coup, parce que j'ai hâte qu'on m'attende.
On en reparlera, tu reviendras.
Ouais,
si,
mais j'ai hâte qu'on m'attende parce que. Et ça voudra dire peut-être un endroit aussi où j'aurai plus d'assises, plus de poignes, tu vois, ouais. J'aurai peut-être une place qu'on m'aura cédé, que j'aurais prise aussi, et que du coup je pense que je serais encore plus à mon endroit.
Moi je sais pas, je pense souvent à Christophe, tu vois, qui est un musicien que j'adore, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a passé sa vie à se réinventer, mais comme perpétuellement, comme un jeune premier, ouais. Et que bizarrement presque les disques qu'il a fait vieux, plus vieux, les plus vieux, il avait, je sais pas, plus de 70 ans, étaient peut-être presque les plus beau disque qu'il ait fait, ceux qui lui ressemblaient le plus. Donc j'aime bien l'idée qu'avec l'âge, avec le temps, on se connaît de mieux en mieux, on se comprend de mieux en mieux, et qu'en fait, en plus nous on est très dépendants de ça dans la pop, dans le rap aussi, ouais. J'imagine, enfin je sais pas, il y a un truc de il faut être jeune, on est les artistes d'un temps, comment tu fais pour durer, c'est aussi ça la vraie question. Comment on fait pour s'inscrire dans le temps, pour pas être juste l'artiste, les artistes d'un moment, quoi.
Ouais, c'est clair.
Parce que c'est dur, ça aussi, c'est
violent.
Ah ouais,
là, je pense que cette idée d'être l'artiste d'un single, ouais. C'est une hantise, quoi. Enfin,
ouais.
En fait, surtout quand tu te sens artiste, que t'as grandi dans la musique, ouais. Vraiment que c'est qu'une passion, c'est une passion et que c'est pas un malentendu de t'es devenu par hasard un produit un jour.
Exactement.
Enfin, je grossis le trait parce qu'il y en a pour qui c'est arrivé, mais c'était une envie et c'était presque prémédité, entre
ouais,
guillemets. Mais
j'en avais discuté avec Franck Delay des To Be Free.
Yes.
Et,
ah, yes.
Et on avait fait un dîner, il était à côté de moi, je me disais mais sa tête me dit un truc et tout, donc vraiment je lui dis excuse-moi, je sais qu'on se connaît de quelque part mais je sais pas où, et donc il m'a dit je suis Franck des To Be Free.
Okay.
Et pareil, et en fait
Michael Jackson.
Incroyable. Ok. Et lui était hyper il avait beaucoup de recul sur ça, justement d'avoir fait des trucs qui avaient très bien marché, et des années plus tard, parce que lui il refait des tournées encore années, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est années 90. Donc voilà. Et donc il refait des tournées là-dessus où en fait ils reprennent à plusieurs les titres des uns des autres et tout, et il est assez aligné avec ça, et ça m'avait marqué parce que j'ai aussi rencontré beaucoup de gens où là je citerai moins les noms, qui souffrent beaucoup plus de ce truc là d'avoir été dans la lumière et d'un coup d'avoir eu un truc de waouh, ouais, mais en fait ma carrière elle était censée éclater, et en fait c'est genre un single, un truc, parce que t'es les crochets, parce que industrie qui te met grave en avant, et puis après
ça,
terminé,
ouais,
et parce que pas prêt, parce que
là moi ce que tu viens de dire là, c'est un, enfin ça m'angoisse.
Ah, j'ai réveillé ton cauchemar.
C'est quoi qui t'angoisse?
Non, mais ça m'angoisserait de, enfin c'est un truc que je respecte, ouais, énormément, hein, vraiment, mais ça m'angoisserait de devoir participer à une tournée où on ne joue que les, enfin où je viens et je fais mon, ouais, single, le seul single, enfin, ouais, vraiment je préférerais direct me dire bon, si c'est pour ça, ouais, bon je continue à faire du son dans ma chambre et puis je vais faire du doublage ou tu sais me renouveler dans un autre truc, parce que je crois que ouais, chanter pendant 30 ans enfin, ouais, et en même temps oui et non, parce que on a toujours un succès peut-être un peu plus important sur un morceau qui te suivra tout le long de ta carrière, et ça je trouve ça génial parce que ça, clairement, montre l'intemporalité, ouais, des morceaux, et ça traverse des générations, donc il y a un truc assez incroyable là-dedans. Mais j'avoue que tu vois la tournée là je me dis, ouais, si je devais faire une tournée 2020 des hits des années 2020 ou je sais pas quoi, je sais pas si je me sentirais à ma place. Enfin après
voilà,
je dis
tôt
ça parce
y a
que
très,
ouais,
peu de nostalgie, ouais, 2020, encore que il y avait pas le Covid, donc peut-être que
ouais, ouais, on regardera cette émission dans, ouais, dans 30 ans,
j'aime
on
trop
dira qu'est-ce qu'on a reconfronté nos idéaux, nos belles paroles
c'est
avec
des
nos
angoisses, etc. Mais qu'en effet, enfin, il y a un moment où on se dira, mais en fait, ça paraît tellement dérisoire, les angoisses de l'époque. Où moi, par exemple, je me dis, il y a un moment dans ta vie où tu arrives à ne plus faire de compromis. Et moi, l'album, par exemple, je l'ai appelé Ego parce que j'ai su être vraiment à mon écoute de A à Z. Et peut-être parfois de façon un peu égoïste ou égocentrique, dans le processus de créativité, parce que justement je voulais plus me faire parasiter par ouais, cette notion de on est dans une industrie, il y a des chiffres, il y a des ventes, enfin surtout dans le rap il y a une notion, enfin en tout cas vis-à-vis des chiffres, etc., ouais, où tu sais que
et puis c'est
les rappeurs ils élèvent leurs certifs, enfin c'est une culture, tu vois, les chiffres, ouais, dans le rap, ça soit l'oseille que tu rapportes, que ça soit
aussi, pour le coup, c'est qu'il y a l'ego
aussi, tu vois. Et moi, je suis vraiment le cul entre deux chaises à ce niveau-là, parce que le rap, c'est une culture avec laquelle j'ai évolué, qui me nourrit et que j'aime transmettre, etc. Et en même temps, je crois que j'ai un côté artistique qui est très éloigné de l'aspect superficiel qu'il peut y avoir parfois dans le rap, quand je parle du rap un peu bling-bling, entre guillemets, ouais. Tu vois. Et en même temps, t'as toujours un petit discours derrière toi qui est en mode « Ouais, mais les chiffres, les machins, puis il n'y a pas trop de meufs dans le rap, et puis nanana, et puis tatata. » Ouais. Et en fait, moi, avec ce projet, c'était ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas eu trop de problèmes à dire que, tu vois, on parlait d'échec. Moi, la première semaine, d'un point de vue industrie, il peut être vu comme un échec, vu que j'ai fait moins de ventes que la première semaine de la sortie du premier album, tu vois. Mais en même temps, l'album que j'ai sorti...
Allez, l'écouter, streamer.
Non, mais je le kiffe de ouf, c'est 100% moi. Et bon, si c'est 800 personnes qui l'ont pris et qui l'ont écouté et qui l'ont acheté, mais qui ont compris ce qui s'y passait et les enjeux.
Surtout, il va vivre plus longtemps aussi.
Ouais, les artistes prolifiques qui sortent des mixtapes, des projets, des EP toutes les deux semaines, etc. C'est une pression aussi. Et en même temps, quand tu prends 2 ou 3 ans pour faire un album, tu sais aussi que ton objectif, c'était pas qu'il soit consommé en 2 semaines.
Ouais, bien sûr.
Et après, on vit avec ça, quoi.
Les amis, on arrive déjà à la fin de l'émission.
C'est pas vrai,
des heures, il faut déjà 3h30 qu'on est là, pas du tout.
En plus, tu disais, c'est pas forcément focus sur la musique.
on y revient tout à chaque fois. Sur la musique à chaque fois. J'aimerais rapidement, parce qu'il y a une question que je trouve très intéressante, quel est le meilleur conseil qu'on vous a donné?
L'entourage.
C'est l'entourage.
Bien s'entourer. Oh ouais, bien s'entourer. Même quitte à pas être trop entouré. Ouais. Mais...
Souvent, être bien entouré, c'est pas être trop entouré en plus.
Ouais. Être bien entouré et bien dormir.
C'est vrai.
Ça me parle.
5 fruits et légumes par jour. Ouais. Voilà.
J'irais 2 phrases. Se plaire à soi avant de vouloir plaire aux autres. Et arrêter de culpabiliser.
T'arrives à le faire, ça?
Disons que j'ai une maîtrise de la culpabilité qui est assez impressionnante. Donc je pense que je suis au début du process. Mais, okay. Mais je vais de mieux en mieux. Et je pense d'ailleurs que tu vois, même l'ego, c'est pas un mauvais mot, en fait. Souvent, on se justifie toujours d'être trop égoïste, trop égocentrique. Et je trouve qu'avoir appelé ton album Ego, tu vois, c'est une reprise de pouvoir aussi avec, avec qui tu es et ce mot qui est... C'est bien d'avoir de l'ego. Je l'avais pas compris. Donc, j'essaye de bien dresser mon ego et d'avoir un ego qui me permette bien d'avancer dans ma vie. À l'écoute des autres, mais à l'écoute de moi.
Trop bien.
Voilà.
Beau.
Juliette, le meilleur conseil?
Meilleur conseil, sans doute, ça rejoint un peu tout ce qu'on se dit là, avec le sommeil, ça me parle énormément, ça. Ouais, je disais tout à l'heure, je parlais de mon père, on parle des pères, c'est marrant, qui me disait qu'il fallait consentir à soi-même. C'est une phrase que j'aime bien, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on fait la meilleure musique, en fait. Enfin, c'est... de pas chercher à se trahir, à ressembler à même à nos idoles, accepter en fait quelles sont les forces, les faiblesses qu'on a en soi. C'est comme ça, moi je me souviendrai toujours quand j'ai signé dans ma toute première maison de disques, on avait fait un remix d'un morceau qui s'appelle L'amour en solitaire, qui était un morceau très électro, etc. Quand il s'est agi de le jouer sur scène, je me suis mise au piano. Puis je disais à ma directrice artistique que j'adorais, je disais mais c'est ringue le truc. Elle me dit non mais attends, fais ce que tu sais faire, fais ce que toi tu sais faire, que tu le fais bien mieux que qui que ce soit d'autre. Essaye pas de faire comme la mouvance du moment, comme le truc. Mais est-ce que j'aime ce que moi je sais faire? Je suis même pas sûre d'aimer mon propre truc.
Ça c'est une question, tu vois.
On n'arrête pas la vidéo. Parfois il arrive qu'on fasse quelque chose qu'on n'aime pas forcément et c'est très déroutant.
On aime le faire, mais on va peut-être pas aimer l'écouter.
Tu vois, c'est bizarre. Ouais. Donc, en fait, finalement, la seule chose pour être en tout cas trouver quand même de la paix et du bonheur, de la jouissance, c'est de consentir à soi-même. J'ai cette gueule-là, je suis comme ça, je serai toujours 1m58, je serai toujours je suis, je serai jamais quelqu'un d'autre. Donc, essayez de trouver les endroits où ça m'amuse d'être moi et de chercher des fictions intérieures aussi, de s'imaginer des personnages, de s'octroyer le droit à l'imaginaire, parce que c'est aussi une grande porte de liberté.
Trop bien. Ouais. Merci beaucoup. Je suis content qu'on ait bien mangé.
Tu vas mieux,
bien
tu veux des bisous.
Écoutez, je vais mieux. C'est bon, là, vous m'avez boosté. Non, en vrai, je suis très content qu'on ait fait cette table parce que pour moi, vous êtes 3 meufs hyper badass et on parle énormément de manque de représentation féminine pour les meufs qui disent on aimerait bien avoir des meufs qui nous ressemblent et comme ça on voit que c'est possible, mais on parle assez peu aussi
de nous avoir réunis, c'est un plaisir,
mais on parle assez peu aussi du fait que bah moi, pour moi vous êtes aussi des modèles pour moi en tant que mec, tu vois, de voir que c'est possible. Et je vous ai vu, il y a que toi que j'ai pas vu sur scène.
Rendez-vous le 16 mai à l'Olympia.
Allez,
vous êtes tous invités.
Très bien. Et voilà, et chacune vous avez un album Chila Ego qui est sorti 2000, tout est sorti en 2022, donc c'est clair. Juliette Brûler le feu, incroyable. Et Aloïse Sauvage. Aloïse Sauvage, sauvage. Voilà, il y avait une virgule, mais de toute façon,
histoire de vraiment bien comprendre là où on se situe désormais.
Merci beaucoup d'être venu, c'est génial. Merci, je suis content. Merci. On finit sur une note hyper chill, mais je suis sûr que ça vous a intéressé, que vous avez plein de questionnements aussi, parce que si ça nous arrive à nous, je pense que c'est global. On se pose tous beaucoup de questions, on a beaucoup de moments de doute. Oui. Mmh. On est beaucoup dans les remises en question de pourquoi on vit, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui,
pourquoi,
etc.
Pourquoi
on en revient à la première
question. La
boucle est bouclée. Absolument. Et je vous invite en commentaire, si vous avez été courageux pour suivre jusqu'à maintenant, à répondre, vous, pourquoi. On se retrouve la semaine prochaine. Salut.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.